Radio Campus 88.3 FM. Le moulin à parole. Restitution d'ateliers radiophoniques et paroles partagées. Le moulin à parole.
De l'info.
De la culture. Des livres.
Des films.
Du sport.
De l'amour.
De l'humour.
De l'histoire.
Des histoires.
Radio Clorisso.
Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la radio Campus avec la classe PEM du collège Les Clorisso de Poilly-les-Gins et avec Anaëlle.
Bonjour Malo, mais qu'est-ce que la classe PEM, dis-moi ?
Eh bien, c'est une très bonne question. Demandons à Zoé qui a fait un post sur la classe PEM. On peut le retrouver sur notre compte Instagram, Clorisso45.
Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker notre compte Instagram.
La classe PEM est une classe média. Nous apprenons à nous informer correctement, à vérifier qu'une information est vraie ou fausse, à décortiquer une information. Enfin bref, nous apprenons à être des citoyens responsables devant l'information.
Merci Zoé. Maintenant, nous allons parler des...
JO de 2024.
C'est un sujet d'actualité. En plus, le collège aurait reçu la labellisation JO.
Ce qui veut dire...
Madame Z, professeure de PS au collège, nous l'explique.
Notre collège a obtenu le label JO 2024 en janvier 2023. Alors un label, c'est une étiquette, c'est une marque spécifique qui est attribuée par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse aux établissements qui constituent en amont un dossier. L'objectif est d'augmenter les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif et surtout de développer les initiatives et les actions en faveur du sport. Avec ce label, on s'engage à le faire vivre. On appartient à une communauté Jeux Olympiques plus riche en actions sportives avec un état d'esprit commun et tourné vers le sport en cette année tout à fait exceptionnelle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors les enjeux sont au nombre de 4. Un des objectifs est donc d'augmenter les projets avec les clubs sportifs. Nous, dans notre secteur, par exemple, nous fonctionnons beaucoup avec l'athlétisme à Gien et nous organisons, par exemple, une après-midi sur le mode des Jeux Olympiques à Gien au stade d'athlétisme. Ensuite, on participe à des événements promotionnels. Alors, ils sont plus nombreux et de plus en plus nombreux, notamment cette année 2024. Par exemple, il y a la semaine olympique et paralympique du 2 au 5 avril, à l'intérieur de laquelle on peut organiser des actions tout à fait spécifiques. Nous participons, par exemple, nous, dans notre collège, au quiz olympique. Nous allons également participer à la journée du sport partagé, où valides et non valides vont partager des moments de sport. C'est un moment exceptionnel pour l'avoir vécu l'an dernier. Nous pouvons également, troisième enjeu, rencontrer des sportifs de haut niveau. Alors, il faut reconnaître que dans notre région, c'est plus difficile, et surtout cette année, de recevoir des athlètes puisqu'ils sont dans leur préparation olympique. Mais nous avons la chance d'aller vers eux, notamment. Nous avons déjà participé à 2 événements. Nous sommes allés en septembre voir l'Open de tennis avec des élèves de 3e, l'Open de tennis à Orléans. Un tournoi international. Et récemment, il y a quelques jours, nous sommes allés à Orléans, au Palais des Sports, voir les Masters internationaux de badminton avec des 4e. Le 4e et dernier enjeu, c'est d'ouvrir nos équipements sportifs, d'ouvrir nos gymnases aux établissements scolaires. Et nous organisons, par exemple, nous, en fin d'année, des interclasses entre tous les élèves du collège avec un fonctionnement olympique, avec des épreuves un petit peu typées olympiques.
Merci Madame Z. Anaëlle, je crois qu'il est temps de lancer l'émission. C'est parti pour les titres.
Au programme, dans un premier temps, nous parlerons de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ça, c'est que l'échauffement.
On va ensuite parler sport, sportif et compétition, le vif du sujet.
Et pour finir, nous allons aborder toutes les questions qui peuvent se poser autour de l'organisation d'un tel événement.
De l'info.
De la culture.
Des livres.
Des films.
Du sport.
De l'amour.
De l'humour.
De l'histoire.
Des histoires.
Radio Clorisso.
À présent, parlons un peu de la cérémonie d'ouverture avec Pauline et Laïna.
Ravie de vous recevoir, Pauline et Laïna. Alors, cette cérémonie, c'est quand et où? Comment va-t-elle se passer?
La cérémonie d'ouverture se déroulera le vendredi 26 juillet 2024. Le départ du défilé sera donné à 20h24. Selon la tradition olympique, c'est le bateau grec qui partira le premier et le français qui s'élancera en dernier. Le défilé nautique devrait se terminer aux alentours de 23h50 lorsque toutes les délégations seront arrivées au Trocadéro.
Trois lions ont été retenus pour accueillir les cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques. La Seine et le Trocadéro accueilleront la cérémonie d'ouverture. Le bas des Champs-Élysées et la place de Concorde pour la cérémonie d'ouverture paralympique. Et le Stade de France pour les cérémonies de clôture.
Waouh, ça devrait être chouette! Devant les athlètes français qui défileront pour la cérémonie, il y a le...
Le porte-drapeau, bien sûr. Liam, tu peux nous en dire un peu plus?
Bonjour Anaël et Malo, ravis de vous retrouver sur Radio Campus. Chaque délégation sportive désigne un ou une athlète pour être porte-drapeau. L'heureux élu devient alors ambassadeur de toute une nation le temps de la cérémonie et pour la durée des Jeux. La question, c'est de savoir qui sera désigné porte-drapeau de la France. Il est important de bien comprendre que la personne choisie aura une responsabilité importante sur les épaules. Depuis peu, le CIO souhaite que deux porte-drapeaux soient désignés afin de promouvoir la mixité sportive. On a évoqué les noms de Clarissac Benyenou et de Teddy Riner pour être les porte-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture.
Mais Clarisse l'a déjà été, non?
Oui, elle ne pourra pas l'être une deuxième fois. Ça vient de sortir.
Est-ce que nos sportifs auront une tenue particulière?
Oui, on ne connaît pas encore leur tenue officielle. On sait juste que c'est Bertulli, la grande maison de couture qui habillera l'équipe de France.
Pour poursuivre, nous allons parler du comité olympique.
Nolan, peux-tu nous expliquer ce que c'est?
D'accord. Le comité international olympique est connu sous le nom de CIO. Il a été créé lors du premier congrès olympique de l'histoire organisé par le baron Pierre de Coubertin. Son rôle est de superviser, soutenir et contrôler l'organisation de l'événement, d'assurer et de veiller au respect des règles de la charte olympique. Le CIO comprend notamment parmi ses membres des athlètes actifs qui sont élus pour une période de 8 ans. Il décide si les pays sont autorisés à participer aux JO. Ainsi, c'est le CIO qui a décidé que les athlètes russes seraient autorisés à participer aux prochains Jeux, mais sous bannière neutre. C'est également eux qui ont validé les 4 nouveaux sports représentés cette année. Le surf, l'escalade, le skateboard et le breaking.
Pas de cérémonie sans...
La flamme. Axel, c'est à toi.
D'abord, c'est Carl Diem, un Allemand théoricien du sport et de l'éducation physique, qui a eu l'idée d'inventer la flamme. Et c'est Mathieu Lehanner, designer français, qui l'a dessinée. C'est le 28 juillet 1928, au JO d'été d'Amsterdam, aux Pays-Bas, qu'on la voit pour la première fois. La cérémonie de l'allumage de la flamme, elle, date des Jeux d'été de 1936, qui ont lieu à Berlin, en Allemagne. À cette époque, c'est Adolf Hitler qui est à la tête du pays et qui a envie d'épater le monde entier. C'est dans le sanctuaire d'Olympie qu'on allume la flamme, quelques mois avant les Jeux, et qu'elle part pour un périple de plusieurs semaines. Elle est pendant ce temps relayée jusqu'à la ville haute des Jeux, principalement par des coureurs à pied, mais également par d'autres modes de transport. Vélo, voiture, train, cheval, bateau, etc. Dans l'Antiquité, pas de flamme, mais des messagers qui parcouraient le monde grec pour annoncer les dates des compétitions et demander l'arrêt des guerres pour que les athlètes et les spectateurs puissent se rendre à Olympie. Maintenant, nous n'attendons plus qu'une seule chose. Qui va allumer la flamme cette année? Le mystère reste entier.
Et vous savez quoi? La flamme passe chez nous, à Gien.
Oui, et c'est pour cela que nous accueillons Thomas qui va nous le confirmer.
Eh oui, la flamme olympique. Nous aurons l'honneur de l'accueillir à Gien le 10 juillet. Comme vous le savez peut-être, la flamme olympique débutera son parcours en Grèce le 16 avril 2024 à Olympie, berceau des JO antiques. Elle y restera jusqu'au 26 avril. Elle arrivera en France le 27 avril à Marseille. Elle passera par 65 départements. Elle terminera son voyage à Paris le 26 juillet, jour du lancement des Jeux Olympiques 2024. J'ai pu rencontrer Madame Valérie Agoguet, adjointe au maire de la ville de Gien. Elle s'occupe des sports. Voici les quelques questions que j'ai pu lui poser. J'ai commencé par lui demander comment elle avait fait pour que la flamme passe à Gien.
Donc c'est un projet qui a été porté par le département. Donc le département du Loiret a demandé à ce que la flamme puisse passer donc dans le département du Loiret. Et puis après, la ville de Gien a postulé pour que la flamme passe à Gien. Et donc on fait partie des 6 villes du département qui vont accueillir la flamme.
Je lui ai ensuite demandé si elle avait dû payer quelque chose pour l'avoir.
Du tout, c'est le département qui prend tout en charge, totalement. Nous, après, c'est totalement gratuit. Évidemment, la ville de Gien va participer un petit peu au niveau des animations. Il y aura un petit coût, mais qui n'est vraiment pas... C'est de l'animation.
J'ai également voulu savoir à quel moment exactement la flamme passera à Gien.
Alors, elle passera le 10 juillet. Et elle part très exactement à 14h25. C'est très, très timé. 14h25, donc du Berry, du rond-point juste avant le pont. Voilà, pour arriver donc devant le centre administratif pardon, à 15h33. Voilà. C'est vraiment très très timé, c'est à la minute près parce qu'elle part de Malesherbes le matin et elle finit à Orléans. Donc elle a un grand parcours à faire dans le Loiret et il faut qu'elle soit à Orléans à une heure bien précise.
Je l'ai ensuite interrogée pour savoir qui portera la flamme. Est-ce que ce seront des Giennois ?
Alors, la flamme, le département a le droit, entre guillemets, de choisir 6 personnes. Donc, simplement 6 personnes six porteurs de flamme, donc qui seront sur Orléans. Et ensuite, les personnes qui ont candidaté pour porter la flamme donc sont choisies par les sponsors officiels, qui sont donc le Coca-Cola et puis Caisse d'Épargne, Banque Populaire. Donc, il y a des personnes de Gien qui ont demandé à porter la flamme. Donc, il y a une jeune fille qui de Gien, mais on ne sait pas si elle va être attribuée à Gien ou pas. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Je crois qu'ils le sauront fin mai, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un tirage au sort. Et puis, c'est un petit peu aussi par rapport à un dossier, leur motivation, leur parcours sportif.
Mais le plus important est, pour quelle raison la flamme passe-t-elle à Gien ?
Parce que je crois que c'est un moment important, que je pense qu'on ne verra pas la flamme de sitôt à Gien, en tout cas pas moi, ça m'étonnerait, et que ça va être un moment très important, très symbolique, et que je pense que c'est vraiment une chance, oui, d'avoir réussi à ce que la flamme passe à Gien. Je crois que beaucoup de villes avaient envie de la voir, et on est chanceux. Voilà, ça va être une belle journée.
Et pour finir, par où passera la flamme à Gien ?
Alors, la flamme, elle va partir donc du rond-point en Berry. Elle va traverser le pont, elle va prendre tous les quais jusqu'à la faïencerie. Elle va remonter rue Paulbert pour aller vers le château. Là, au château, on aura une petite boucle dans le parc du château, puisque c'est quand même un projet départemental et que le château appartient au département et qu'on veut mettre en valeur la ville de Gien. On redescend donc la rue du château. On reprend l'avenue Leclerc jusqu'à la statue Vercingétorix. On remonte à l'avenue Wilson, rue Jules César, pour finir au centre administratif.
Merci à elle d'avoir pris le temps de me répondre.
Mais la flamme n'est pas le seul symbole des JO. Il y en a d'autres.
Pour les présenter, Olena et Sacha.
Pour commencer, il faut savoir que 1896 a été l'année de tous les défis. Le renouveau des Jeux Olympiques et de l'hymne. Coubertin a repris l'idée des Jeux Olympiques car il estimait que le sport devait s'internationaliser pour devenir plus populaire. À présent, les Jeux Olympiques sont organisés tous les 4 ans.
Et pour récompenser les vainqueurs, on leur a bien sûr une médaille.
Elles sont magnifiques. Elles ont été dessinées par le joaillier Chaumet et créées par un bijoutier. Chaque médaille, qu'elle soit en or, en argent ou en bronze, est faite à partir d'un morceau de la Tour Eiffel en forme d'hexagone qui représente la France. Il est intéressant de savoir que, dans l'Antiquité, les athlètes ne remportaient pas de médailles, mais des couronnes en olivier sauvage, fabriquées à la main.
Allons, enfants de la patrie !
Stop ! Alors ça, c'est l'hymne français. Sache qu'il y a un hymne olympique. C'est Spyros Samaras qui a créé la musique et Kostis Palamas qui a inventé les paroles de cet hymne. Il a été joué pour la première fois lors des Jeux de la première Olympiade à Athènes en 1896. D'autres compositions musicales ont accompagné les cérémonies d'ouverture des Jeux suivants, jusqu'aux Jeux de Rome en 1960. Mais depuis, C'est la composition de Spyros et Kostis qui est l'hymne olympique officiel.
Et moi, je connais la devise. C'est Veni, Vidi, Vici.
Pas du tout. Là, tu confonds avec Jules César. La devise des Jeux Olympiques, c'est Henri Didon qui l'a créée à la fin du 19e siècle. Et c'est Siltius, Altius, Fortus, qui signifie plus vite, plus haut, plus fort. Et les anneaux olympiques, est-ce que vous connaissez la signification des couleurs ?
Eh bien non, vas-y, on t'écoute.
Ils sont apparus pour la première fois en 1913. Les cinq anneaux entrelacés représentent les cinq continents unis par l'olympisme. L'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Chaque couleur des anneaux représente une nation. Le bleu représente l'Europe, le noir l'Afrique, le rouge l'Amérique, le jaune l'Asie, le vert l'Australie. C'est Pierre de Coubertin qui a imaginé ce drapeau en 1913. C'est une création moderne qui n'a rien à voir avec un dessin antique.
Et les petites peluches rouges qu'on voit partout, c'est quoi ?
Ce sont les mascottes de ces JO, les friges. Rouges, car elles symbolisent la liberté et la révolution. Elles ont la forme d'un bonnet phrygien. Les trois couleurs du drapeau sont omniprésentes dans le design des personnages. Bien sûr, il existe aussi les mascottes paralympiques qui ont une prothèse à la jambe. Sur la poitrine des friges se trouvent les logos des Jeux. Les friges ont été conçues par l'agence W et l'équipe du design de Paris 2024.
Merci les filles, quelle culture! Maintenant place au sport comme nous vous l'avions dit au début.
De l'info.
De la culture. Des livres.
Des films.
Du sport.
De l'amour.
De l'humour.
De l'histoire.
Des histoires.
Radio Clorisso.
Après toutes ces festivités, il est temps de parler, enfin, sport et compète.
Maintenant, nous accueillons Tristan et Linaël pour nous parler des performances améliorées de certains sportifs grâce au matériel qu'ils utilisent. Par exemple, il existe de nouvelles chaussures qui leur permettent de booster les résultats. Vous confirmez ?
Oui, absolument. Nous allons vous parler de chaussures performantes et des prothèses innovantes. Les chaussures performantes sont faites avec des lames de carbone. Cette matière permet aux coureurs de mieux récupérer physiquement, ce qui donne un avantage injuste par rapport aux autres coureurs. Elles propulsent littéralement leurs propriétaires vers la victoire. Les athlètes portant ces chaussures performantes n'ont pas fini de battre des records. En fin de compte, elles représentent en quelque sorte la trahison de l'esprit même des Jeux Olympiques.
Et en matière de prothèses, est-il vrai que les athlètes paralympiques peuvent faire face à des inégalités de matériel en fonction de leurs moyens financiers?
Oui, c'est vrai. Certains para-athlètes sont aidés par Airbus pour améliorer leur équipement. Par exemple, il a été conçu un fauteuil roulant sur mesure pour le joueur de para-badminton paraplégique David Toupé. Il faut savoir que certains athlètes travaillent avec des ingénieurs d'Airbus pour optimiser leur matériel et améliorer leur performance. C'est une collaboration qui a déjà donné de très bons résultats. Étant donné qu'Airbus a du matériel pour la fabrication d'avions, les fauteuils roulants et tout autre matériel produit par Airbus seront de bien meilleure qualité.
C'est vrai que dans ce cas, la question de l'égalité entre les athlètes peut se poser. Ce sera une affaire à suivre cet été.
Triche ou pas, on vous laisse juger. Merci les garçons de votre intervention.
Petite question à Nel, connais-tu certains sportifs qui participent aux Jeux de cette année ?
Non, mais Nathan et Thibaut en savent sûrement plus que nous.
Oui, nous allons vous présenter 4 athlètes à suivre de près. Clarisse Abdeghnou a 32 ans. C'est une grande judokate française. Elle vient juste de remporter le tournoi international de judo, le Grand Slam qui a lieu tous les mois de février à Paris et a été championne olympique en 2021 à Tokyo. C'est une athlète à suivre de près car elle a sûrement le plus beau palmarès français et international.
Parlons à présent de Marie Patouillet. Elle est âgée de 36 ans, c'est une cycliste paralympique. Elle est née avec une malformation au pied gauche. Elle a été sacrée championne du monde de paracyclisme sur route. Elle est aussi double médaille de bronze aux JO 2021. C'est une athlète à suivre car elle est tenante du titre et elle le remet en jeu.
Nous allons maintenant vous présenter Meji Scholk, qui a 20 ans seulement et qui est déjà vice-champion du monde de bloc. Il est sans doute notre meilleure chance en escalade chez les hommes. Mais pour l'instant, il lui faudra donc passer par la case Olympique Série, soit 2 compétitions, l'une à Shanghai, l'autre à Budapest, avant d'espérer figurer sur la liste des compétiteurs olympiques. Nous lui souhaitons tous bonne chance et nous espérons le retrouver pendant les JO de Paris.
Enfin, nous terminerons avec Riyad Selem qui a 53 ans. C'est un athlète handisport, triple champion d'Europe de basket fauteuil. Il est aussi champion de rugby fauteuil et champion d'Europe avec la France. C'est le créateur de CAPSA, une association pour aider les enfants handicapés à pratiquer un sport. D'ailleurs, nous avons eu la chance de les accueillir au collège des Clorisseaux de Poilly-les-Gien pour nous présenter certains sports comme le basket-fauteuil, la sarbacane, ainsi qu'un parcours à l'aveugle. Riyad est un athlète remarquable et expérimenté dont nous sommes impatients de voir les futurs exploits cet été.
Merci, nous les suivrons avec beaucoup d'intérêt. Continuons sur notre lancée et parlons des Jeux paralympiques.
Oui, tu as raison. Shannon et Zoé, bonjour. Alors, ces paralympiques, ça date de quand ?
C'est Ludwig Goodman, un médecin neurologue de Londres, qui a eu l'idée d'organiser dès 1948 les premiers Jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés, avec des soldats de la Seconde Guerre mondiale, tous en fauteuil roulant. Il a imaginé des épreuves sportives au moment même où les Jeux olympiques se déroulaient à Londres, en 1960, les premiers Jeux paralympiques ont eu lieu à Rome. Ils rassemblent trois types de handicaps, mental, visuel et physique.
Les Jeux paralympiques ont également leur drapeau formé de trois agitaux, ce qui signifie en latin « je bouge », respectivement rouge, bleu et vert sur un fond blanc. Chaque agito symbolise le mouvement. Ils ont aussi une devise paralympique « spirit in motion », ce qui veut dire « esprit en mouvement ».
Et est-ce qu'il y a un sport paralympique qui vous semble particulièrement incroyable?
Oui, on aimerait vous parler du cécifoot.
D'où vient ce mot cécifoot?
Le nom de cécifoot vient de cécité.
C'est le fait qu'on ne puisse pas voir. Il est apparu pour la première fois aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004.
Mais c'est quoi le cécifoot?
Eh bien, c'est le foot pour les personnes malvoyantes et non-voyantes.
Il y a des règles, non?
Oui, mais ces règles, c'est les mêmes que le foot.
Mais comment est-ce que les joueurs peuvent savoir où est le ballon s'ils ne peuvent pas le voir?
Eh bien, le ballon émet un son en roulant. Les athlètes sont donc capables de savoir où il est rien qu'en tendant l'oreille.
Mais dis-moi, Shannon, quand est-ce qu'on pourra aller voir des joueurs du cécifoot?
Les Jeux paralympiques se dérouleront à Paris du 28 août au 8 septembre 2024. La cérémonie d'ouverture se déroulera le 28 août en plein cœur de Paris. Mais cette cérémonie sera différente des autres car elle aura lieu hors stade.
Mais Malo, tu n'avais pas dit qu'on se poserait quelques questions sur l'organisation des Jeux?
Bien sûr. Que voudrais-tu savoir?
J'aimerais en apprendre plus sur l'aménagement des routes et l'organisation des transports.
Eh bien, pour te répondre, accueillons Raphaël.
Bonjour. Eh bien, pour vous répondre, plus les jours passent, plus il sera compliqué de se déplacer à Paris. De nombreuses routes seront bloquées ainsi que certaines lignes de transport en commun. La partie de la Seine qui accueillera la cérémonie d'ouverture sera fermée et la navigation une semaine avant le coup d'envoi de la compétition. Il sera cependant possible de circuler à vélo, en trottinette et autres petits véhicules de ce type sans avoir besoin de justificatifs. Cependant, toute la durée des Jeux Olympiques. Quelques bus et autres transports en commun vont être réquisitionnés pour les déplacements des participants. Les transports en commun resteront le moyen le plus pratique pour se déplacer. La ville est bien desservie par le métro, le RER et le bus. Ce service de transport en commun sera renforcé de 15% d'ici le mois de juillet. Ce sera le 26 juillet 2024 que la circulation sera complètement bloquée et Paris sera véritablement coupé en deux avec la cérémonie d'ouverture.
Merci Raphaël de nous avoir répondu. Ça promet d'être une belle pagaille.
C'est vrai. Moi aussi j'ai une question. Quelles sont les nouvelles installations?
Demandons à Théo qui s'est intéressé à ce sujet.
Bonjour tout le monde. Il faudra savoir que dans la capitale française, il n'y aura qu'un site pour les Jeux Olympiques et 11 pour les Jeux Paralympiques. Évidemment, il y a de nouvelles installations construites spécialement pour les Jeux Olympiques de 2024, notamment deux nouvelles piscines créées par la mairie de Paris. Dans le centre aquatique olympique, qui sera donc agrandi, il y aura deux nouveaux bassins qui mesureront 50 mètres de long et 25 mètres de large. Plusieurs sites seront rénovés. Le Grand Palais pour l'escrime et le taekwondo, le Parc des Princes pour le football et le stade Roland-Garros pour le tennis. La rénovation du Grand Palais a commencé en 2022. Cela fait exactement 2 ans et 233 jours que c'est en travaux. On doit aussi créer 14 terrains d'escrime et 18 de taekwondo.
Bon, tout ça, c'est bien. Ça fait beaucoup d'athlètes à Paris en même temps. Il va bien falloir qu'on les loge.
Je crois qu'Owen a la réponse, et ça tombe bien. Il se trouve qu'en ce moment, il est avec nous.
Alors, Owen, combien d'athlètes y aura-t-il au JO?
Il y aura plus de 10 000 athlètes appartenant à 200 nations qui prendront part aux 306 épreuves médaillées. C'est énorme. Évidemment, il faudra les loger. Et pour cela, 4 000 logements ont été construits entre Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et l'île Saint-Denis. Après leur utilisation, ils deviendront des logements étudiants. Il y aura plus de 60 000 repas qui seront servis 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les athlètes seront accueillis dans les logements dès le 1er mars 2024. De plus, il y aura plus de 15 millions de spectateurs. Un quartier de plus de 52 hectares sera utilisé avec plus de 6 000 habitants, mais également plus de 2 800 nouveaux logements. Les logements et structures seront pris en charge par 1 900 entreprises.
Ah oui, incroyable ces chiffres quand même. Maintenant, troisième et dernière partie de notre émission.
De l'info.
De la culture. Des livres.
Des films.
Du sport.
De l'amour.
De l'humour.
De l'histoire.
Des histoires.
Radio Clorisso.
Ça s'annonce bien ces JO. Et si maintenant, on réfléchissait en tant que citoyen?
Oui, par exemple l'écologie dans tout ça. Est-ce qu'on y a pensé?
Certaines épreuves vont se dérouler dans la Seine. Mais elle n'est pas très propre la Seine. Est-ce qu'on a prévu de la nettoyer ou pas?
Oui. Et est-ce que la Seine est saine? Malévina, Laetitia, c'est à vous.
Oui, trois épreuves doivent se dérouler dans la Seine. Une épreuve de natation de 50 mètres en nage libre. Une épreuve de parcours professionnel adapté et une épreuve d'endurance. L'eau de la Seine n'a jamais été aussi propre qu'aujourd'hui. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a demandé à ce que de nombreux systèmes domestiques d'épuration soient construits avec des filtres ultraviolets pour nettoyer la Seine, ce qui a nécessité un budget de 1,4 milliard d'euros.
Les élus de la maire de Paris ont demandé de placer aussi les bassins de stockage des eaux de pluie en sous-sol. Les péniches n'auront pas le droit de déverser leur eau sale dans la Seine. 223 péniches, bateaux de promenade et de croisiade amarrés au quai de Paris vont devoir se raccorder au réseau de la ville afin de ne plus déverser leur eau usée dans le fleuve.
Sans oublier les 16 millions de personnes qui viendront assister aux Jeux en voiture, en avion et en train, ce qui va occasionner de la pollution et donc des gaz à effet de serre.
Écolo, écolo, au final pas complètement. On peut mieux faire.
Tout à fait, tu as raison. L'écologie, on pourrait en faire tout un bouquin.
Bravo Malo, tu as fait un bel enchaînement. Car maintenant, on va évoquer un autre problème qui a fait couler beaucoup d'encre, les bouquinistes.
Alexis, toi tu as travaillé sur ce sujet il me semble.
Effectivement. Il faut savoir que les bouquinistes sont des commerçants de livres d'occasion. Ils pensaient pouvoir profiter des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de la masse de touristes venus du monde entier. Mais les autorités ne les ont pas invités aux festivités. Bien au contraire, la préfecture de police avait ordonné qu'on leur retire ces boîtes vertes si caractéristiques durant les festivités, pour des raisons de sécurité. Un jour, les bouquinistes ont reçu une lettre de la préfecture de police qui leur demandait de partir. Mais certains ne voyaient pas pourquoi ils devraient partir, car ils font partie du patrimoine parisien. Et quelques-uns pensent même que c'est un prétexte pour les faire partir définitivement. Car selon certains riverains, ils gâchent la vue. Leur boutique se trouve dans le périmètre de protection mis en place pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais, le 14 février dernier, M. Macron a tranché. Faute d'accord entre les bouquinistes et le préfet chargé de la sécurité. Les bouquinistes pourront rester pour les JO de 2024. Ils font partie du patrimoine de Paris et restent un atout pour les touristes. Le président envisage même de les inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Nous en sommes bien contents.
Même les athlètes russes vont pouvoir admirer ces fameuses boîtes vertes.
Oui, les athlètes russes à Paris, ça ne réjouit pas du tout Mathieu. On écoute son édito.
J'aimerais aborder un sujet très délicat, celui de la participation des athlètes russes aux JO. Depuis l'Antiquité, les JO symbolisent la paix. Et c'est un moment où toutes les guerres s'arrêtent. Comme vous le savez, il y a 2 ans, la Russie a attaqué l'Ukraine. Les Russes ont immédiatement été sanctionnés et exclus de plusieurs championnats par les différentes fédérations sportives. Le vendredi 8 décembre 2023, le CIO a pris une décision. À mon avis, peu judicieuse, ils ont décidé de laisser participer les Russes aux Jeux. Sous bannière neutre, d'accord, mais ils y participeront quand même. Poutine, le président russe, n'a pas l'air de vouloir accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Il ne respecte donc pas le contrat, l'esprit même des Jeux Olympiques, qui dit qu'il faut faire la paix et donc il ne serait pas très juste de laisser participer les athlètes russes. Et même avec la contrainte de la bannière neutre, les journalistes parleront d'eux et non des athlètes sans bannière. Dans l'esprit des gens, ils représenteront aussi les Russes. Et du coup, ce sera comme si la Russie n'avait pas vraiment été sanctionnée. Et dans un certain sens, le président Poutine aura un peu gagné.
Bientôt la fin de l'émission. Pour terminer, on vous propose un débat sur le e-sport. La question est de savoir si le e-sport doit être olympique ou pas.
Tristan et Morgane, c'est à vous.
Oui, je pense que l'e-sport devrait figurer dans les Jeux Olympiques. C'est un sport comme un autre d'ailleurs. Il y a des tournois, des joueurs professionnels qui gagnent de l'argent.
Mais moi je ne suis pas d'accord. Je pense que l'e-sport est un sport virtuel, il n'a donc pas sa place aux JO. La seule blessure que tu risques, c'est une luxation du pouce, voire pire encore, des crampes.
En fait, vous nous rappelez ce qu'est le e-sport ?
Le e-sport, c'est le sport dans des jeux vidéo. Des personnes vont s'affronter dans différents tournois et jeux.
Oui, mais si, comme tu l'as dit, le e-sport est un sport, même virtuel, pourquoi n'aurait-il pas sa place aux Jeux Olympiques ? Après tout, on considère bien la pétanque comme un sport. Ce n'est pas très physique.
Ce sont différents domaines. C'est comme si tu voulais mettre les échecs aux JO sous prétexte que c'est un sport cérébral.
Ok, mais donne-moi une bonne raison de ne pas mettre le e-sport aux JO. Là aussi, il faut mettre en place des stratégies pour gagner. Par exemple, Pro Cycling Manager. Il faut diriger une équipe de cyclistes, les engager, les entraîner. Il faut réfléchir pour gagner.
Ma raison, c'est que ce sont des activités différentes. C'est bizarre car des gens vont nager et d'autres vont jouer à des jeux vidéo. On ne peut quand même pas comparer. Ce ne sont pas les mêmes efforts.
Je pense que c'est quand même quelque chose qui pourrait intéresser beaucoup de jeunes, même si à côté des nageurs, ça peut paraître ridicule. En tout cas, le e-sport mérite sa place.
Je suis d'accord, cela peut intéresser beaucoup de personnes. Mais il y a des endroits spécifiques pour le e-sport.
Par exemple ?
La Paris Game Week, il y a un tournoi chaque jour pendant un week-end, plus des mini-compétitions. La Paris Game Week est une énorme exposition de jeux vidéo avec des tournois, des jeux en avant-première et des spectacles.
Ok, mais moi, je pense que le e-sport devrait faire partie des JO, car cela reste un divertissement agréable.
Donc si je suis tes arguments, tout comme n'importe quel autre sport, le sport virtuel devrait faire partie des JO.
D'un certain côté, oui. Comme ça, tout le monde pourrait essayer d'y participer. Car vous savez, personne n'a les mêmes capacités. Pour moi, l'e-sport, c'est le sport nouvelle génération. Il va révolutionner le monde.
Bon, merci. Laissons à présent nos auditeurs se faire leur propre opinion.
Merci les garçons. Place maintenant aux remerciements.
Merci de nous avoir écoutés pendant ce moment passé avec la classe PEM. Merci Malo. Et enfin, nous remercions tous nos auditeurs pour cette émission spéciale sur les JO de Paris 2024.
Eh bien, merci à toi aussi, Anaël. Merci aux professeurs qui nous ont accompagnés depuis le début de cette année pour ce projet. J'aimerais aussi remercier la Radio Campus de nous avoir accueillis.
Bonne fin de journée à tous
et au revoir.
De l'info,
de la culture, des livres, des films, du sport,
de l'amour,
de l'humour,
de l'histoire,
des histoires.
Radio Clorisso.
Radio Campus 88.3 FM.
Le moulin à parole.
Restitution de l'atelier radiophonique et paroles partagées. Le moulin à parole.